VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Isabel Dos Santos, fille de l'ex-président angolais, déjà sous le coup d'une enquête judiciaire dans son pays, est accusée d'avoir siphonné les caisses du pays dans une enquête du consortium international des journalistes d'investigation ICIG, publiée dimanche. La milliardaire était déjà dans le radar de la justice de nombreux pays. L'enquête l'accable en révélant des détails inédits sur les montages financiers utilisés ainsi que le nom des sociétés qui l'y ont aidé et les montants sont en jeu. Un tissu de mensonges, selon elle, Isabel Dos Santos, considérée par le magazine américain Forbes comme la femme la plus riche d'Afrique, dénonce une chasse aux sorcières destinée à les discréditer, elle et son père. Au Niger, l'opposition politique demande le départ du président Issoufou Mahamadou, responsable, selon elle, de la dégradation continue de la situation sécuritaire dans le pays. En l'espace d'un mois, plus de 100 soldats sont morts suite à des attaques des groupes terroristes. C'est ainsi que le 9 janvier, 89 militaires ont été tués par des djihadistes à Chinoé-Gouda, près du Mali. Notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa, fait le point.
Dans sa toute première déclaration publique de cette nouvelle année, l'opposition politique n'est pas allée du dos de la cuillère, accusant la gouvernance du président Issoufou Mahamadou d'être la source de la situation actuelle que vit le pays, notamment sur le plan sécuritaire.
La situation que nous vivons met à nu l'incompétence et la duplicité de Issoufou Mahamadou à gérer l'État. Le drame en cascade que vit notre peuple aujourd'hui et qui menace l'existence même de notre pays est, comme on le voit, imputable à la gouvernance promue par Issoufou Mahamadou. D'asymétrique, cette guerre vire donc en une conquête territoriale. L'ennemi se substituant dans plusieurs endroits à l'État du Niger, prélevant impôts et gérant des zones entières du territoire.
Pour tout cela, les partis politiques de l'opposition demandent au président Issoufou Mahamadou de partir pour que vive le Niger. En réaction à cette déclaration, le secrétaire à la communication du comité exécutif national du parti présidentiel estime que de tels propos sont indignes d'une opposition républicaine. Hiro Sani.
C'est vraiment irresponsable, c'est vraiment condamnable et c'est lamentable. Nous avons une opposition totalement indigne. Pour des gens qui pensent gouverner ce pays, ou des gens qui ont même eu à diriger ce pays-là, de se comporter de cette manière-là est totalement irresponsable. Dans quel pays on a vu que parce qu'il y a eu une attaque dans ce pays-là, alors le président de la République du pays doit quitter? Et s'il quitte, qui va monter au pouvoir?
Tout cela est la preuve d'une réelle tension politique en perspective des élections qui auront lieu cette année au Niger, estime Soumana Idrissa Mega, journaliste, directeur de publication du quotidien privé L'Enquêteur.
C'est la preuve que le climat sociopolitique est inquiétant, que le pays est en tension comme il ne l'a jamais été à cause de la politique présidentielle qui est jugée non seulement injuste mais aussi inefficace. Le gouvernement porte, je crois, une responsabilité dans cette tension en permanence parce qu'il exerce une certaine forme d'arrogance, de mépris à l'endroit non seulement de l'opposition politique mais aussi des différents corps intermédiaires de la démocratie qui sont les syndicats, la société civile, etc. Pour ce qui est du départ demandé du président de la République, elle ne manque pas de panache, mais une chose est sûre, Issoufou ne fait pas partie de la solution, il serait même le problème. Mais d'un côté aussi, on ne peut pas éteindre un incendie avec un arrosoir. L'opposition n'est pas crédible en demandant le départ du président. Les mots ne suffiront pas. Pourquoi la croix? Elle doit suivre sa déclaration d'actes concrets et on n'en est pas là encore, je crois. Quoi qu'il en soit, je crois que cette affaire laissera une trace. Elle va alimenter une nouvelle fois les désaveux des politiques. Une situation qui mène malheureusement à la démocratie au Niger.
Abdullah Razak Idrissa, à Niamey pour VOA Afrique.
Près de 7000 personnes ont fui la zone de Chinéguda, dans l'ouest du Niger, après l'attaque du 9 janvier qui a tué 89 soldats, une des plus meurtrières de l'histoire du pays, a annoncé samedi le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés dans un communiqué. Les témoignages recueillis mentionnent des populations civiles craignant pour leur vie après un ultimatum de la part des groupes armés, selon le HCR. Elles sont la cible d'attaques, d'enlèvements ou d'assassinats, tandis que leurs biens sont appropriés par ces groupes. Le retour de soldats maliens à Kidal, ville du nord du Mali aux mains d'ex-rebelles, a été abordé dimanche à Bamako au cours d'une réunion du comité pour le retour de la paix au Mali visant à relancer l'accord d'Alger de 2015. Il s'agissait de la première réunion depuis septembre 2019 du comité de suivi de l'accord d'Alger, CSA, de 2015, qui prévoit le désarmement de groupes rebelles et leur intégration dans les forces de défense maliennes. L'armée malienne n'a pas repris pied dans cette ville depuis des combats en mai 2014. La conférence de Berlin sur la Libye a pris fin hier soir dans la capitale allemande. Les principaux pays concernés par le conflit en Libye ont promis de respecter un embargo sur les armes et de ne plus interférer dans ses affaires intérieures. Claire Morin-Gibou.
Un accord international a été trouvé pour tenter de relancer les efforts de paix en Libye, même si les conséquences de cet engagement restent incertaines sur le terrain. Fayez al-Sarraj, le chef du gouvernement d'Union nationale à Tripoli, et Khalifa Haftar, qui contrôle l'Est libyen, ont refusé de se rencontrer lors de cette conférence. Un problème relevé par Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, qui a reconnu n'avoir pas réussi pour l'instant à lancer un dialogue sérieux et stable entre eux. Tant M. Lavrov que la chancelière allemande Angela Merkel, hôte de la conférence, ont parlé d'un petit pas en avant, tout en reconnaissant que beaucoup restait à faire pour parvenir à la paix. Principale avancée, les dirigeants de 11 pays, dont la Russie et la Turquie, ont souligné dans une déclaration commune qu'il n'y a pas de solution militaire au conflit. Les participants ont aussi promis de respecter enfin l'embargo sur les livraisons d'armes à la Libye, décrété par l'ONU en 2011.
Les Comoriens ont boudé les urnes hier pour le premier tour des élections législatives. Les adversaires du président Azali Assoumani ont refusé de participer au scrutin, faute d'avoir obtenu de son gouvernement les garanties à leurs yeux nécessaires pour qu'il soit transparent, libre et démocratique, notamment en refusant la participation des Comoriens de l'étranger. Le Premier ministre britannique Boris Johnson rencontre aujourd'hui à Londres 16 dirigeants africains lors d'un sommet sur l'investissement. Cette rencontre, qui réunira dirigeants et chefs d'entreprises des pays concernés, vise à élargir le panel des partenaires commerciaux du Royaume-Uni, alors que celui-ci s'apprête à sortir de l'Union européenne. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le président kenyan Uhuru Kenyatta prennent part au sommet, tout comme le dirigeant nigérian Muhammadu Buhari et le Ghanéen Nana Akufo-Addo.
Nos infos sur voaafrique.com.
Ici à Washington, c'est demain que va démarrer pour de bon au Sénat le procès en destitution du président Donald Trump, accusé par les démocrates de la Chambre des représentants d'avoir fait pression sur l'Ukraine pour la forcer à ouvrir une enquête sur un possible rival en 2020. L'ancien vice-président Joe Biden ainsi que son fils Hunter, hier les principaux acteurs dans ce procès, accusation et défense, ont eu des échanges énergiques à la télévision sur la question de savoir si une telle accusation méritait, même constitutionnellement parlant, une mise en accusation, voire une éventuelle destitution. Le New York Times a annoncé dimanche soir qu'il soutenait deux candidates à l'élection présidentielle, les sénatrices Elizabeth Warren et Amy Klobuchar, étant pour la première fois incapable de se prononcer en faveur d'un seul nom. Pour justifier cette ambivalence entre deux démocrates au programme très différent, le prestigieux quotidien a dit vouloir concilier entre un choix radical, Mme Warren, et un autre réaliste, Mme Klobuchar. Un débat essentiel a eu lieu en ce moment entre deux visions qui pourraient déterminer l'avenir du parti et peut-être du pays, lit-on dans un éditorial. Le président libanais va réunir lundi les hauts responsables de la sécurité après un week-end d'affrontements entre policiers et manifestants qui ont fait plus de 500 blessés dans la capitale, des violences sans précédent pour le pays en crise. L'objectif est de discuter des développements sur le plan sécuritaire et des mesures à prendre pour préserver la stabilité et le calme dans le pays, selon l'agence officielle ANI. Et puis des centaines de manifestants anti-gouvernementaux se sont opposés aux forces de sécurité et ont bloqué des rues de Bagdad, bien décidés à accentuer la pression sur les autorités qui avaient jusqu'à lundi pour apporter des réponses aux revendications du mouvement de contestation en Irak. Ce mouvement, qui réclame depuis début octobre une refonte du système au pouvoir, avait été éclipsé ces dernières semaines par la flambée des tensions entre l'Iran et les États-Unis, les deux principaux parrains de l'Irak. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francis pour un nouveau point de l'actualité. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.